Bible en psaume 8. Si vous avez vos Bibles, version second 21, une copie sous téléphone peut-être. En rentrant ce matin, j'ai vu à l'écran une image de moi avec beaucoup de mots français autour. Je ne sais pas ce que ça disait là. Je me suis imaginé que ça disait « Ce pauvre bonhomme ne parle que l'anglais ». Alors, aller chercher une radio au fond de la salle avec des écouteurs. Je vous apporte les salutations de l'église Cities à Saint-Paul, Minnesota, où ma famille et mes confrères, pasteurs et l'Assemblée se réunira ce matin pour louer notre roi. Quelle belle chose, n'est-ce pas, de se rassembler dimanche matin, où des millions de par le monde s'assemblent pour louer et adorer notre Dieu. Quelle joie de voir des douzaines et des centaines ensemble. Et c'est des millions dans diverses églises. Je vous apporte aussi les salutations de mon organisme, desiringgod.org, notre ami Daniel Enser et notre partenaire ici. Nous vous saluons, nous remercions Dieu pour toi. Le français compte pour nous et nous sommes enthousiasmés d'être en partenariat avec diverses initiatives en français ainsi qu'en anglais, bien sûr. Psaume 8, je lis dans la version second 21 et... Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Je comprends que dans les traductions françaises, c'est le mot magnifique plutôt que majestueux, ça va. Il y a un chevauchement dans le sens, que ce soit magnifique ou majestueux. Nous allons parler de ce concept. Alors, Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel par la bouche des enfants, les nourrissons se fondent, ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Prions, Père du ciel, aide-nous ce matin, alors que nous ouvrons ta parole et que nous lisons le psaume 8. Combien c'est remarquable d'avoir ces paroles venant du roi David, écrites il y a 3000 ans maintenant, et qui résonnent avec tellement de pertinence et d'émerveillement pour nous, montrant que toi, Père, l'ancien des jours, est toujours permanent en 2022. Aux États-Unis, au Canada et de partout le monde. À quel point ton nom est magnifique et ta majesté domine sur toute la terre. Alors que nous examinons ta parole ce matin, sois avec nous alors que nous contemplons ta majesté. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. En 1977, un pasteur en Californie, et il s'appelait Jack Hayford, s'est rendu avec son épouse en Angleterre lors du jubilé d'argent. Ça, c'est le 25e anniversaire de l'accession au trône de la reine Élisabeth. Elle est montée sur le trône en 1952, comme on sait, donc 77, anniversaire du jubilé d'argent. Alors que ces deux Américains, qui étaient au Royaume-Uni, ont été frappés par la grandeur de la fête que l'on faisait pour ce jubilé d'argent. Et ils se remarquaient qu'il y avait une joie manifeste chez le peuple au chef de leur monarque. Et pendant leur séjour, ils ont visité le palais de Blenheim. Avez-vous entendu parler du palais de Blenheim? Oui, oui. C'est le lieu de naissance de Winston Churchill. Célèbre pour son ampleur et sa majesté, que certains Nord-Américains ne connaissent qu'en regardant des épisodes de Downton Abbey. Télérama, en s'éloignant du palais, submergé par la crainte, le pasteur Rayford s'est retrouvé à chercher des mots qui transposeraient le poids de cette expérience terrestre dans la clé du ciel, une clé céleste. Alors qu'il se forçait à trouver un mot, le mot qui lui semblait le plus approprié à la fois pour décrire l'étonnante magnificence du palais et comment aussi cela indiquait la supériorité du Christ régnant, était le mot « majesté ». Et selon un journal californien qui a raconté l'histoire en 2015, alors que les Hayford se retiraient de ce palais royal et s'éloignaient en auto, le pasteur Hayford a demandé à ce prêtre de sortir son carnet et d'écrire quelques pensées qui lui venaient. Et il a commencé alors à dicter les paroles. La clé est la synchronisation d'une chanson maintenant chantée par des chrétiens dans le monde entier. Peut-être que vous le connaissez. Oui, on le connaît. L'impulsion d'Hayford à prendre le mot « majesté », même si à l'époque il le savait ou non, était en fait une impulsion profondément biblique. La majesté, en effet, est un attribut fréquent et soigneusement choisi dans l'Écriture, l'Écriture qui nous vient du Dieu vivant. En fait, c'est un trait souvent négligé dans nos études des attributs divins. Peut-être avez-vous fait une étude sur les attributs divins, toute puissance, etc., omni ici, omni cela, omniprésence, omniscience, omnipuissance, immuabilité, et les sages, bon, juste, saints, pleins d'amour, etc., mais il est aussi majestueux, comme nous le dit le psaume 8. Ce mot jette une lumière importante sur ses autres attributs bien connus. La majesté de Dieu est tout à fait appropriée pour la louange, comme Hayford l'avait deviné, peut-être avec l'aide du psaume 8 qu'il a écrit. Majesté, nous chantons à lui la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Je dis les paroles que nous chantons, majesté, suprême autorité. Du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. En anglais et en français, hein? On l'a aussi en français, avec les mots légèrement différents. La majesté de notre Dieu est souligné, est mise en évidence de façon plus importante dans le psaume 8 à cause du premier verset et du deuxième verset. En fait, c'est le deuxième verset de nos versions parce qu'on compte la souscription, mais nous pouvons profiter de la profondeur de ce verset encore plus parce que c'est au début de fin éternelle, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, magnifique ou majestueux. En anglais. Donc, ceux qui, comme le pasteur Rayford, saisissent le mot majesté, se trouvent souvent debout, se souvenant d'une merveille naturelle ou artificielle qui est à la fois imposante, mais aussi, en même temps, attirante. Imposant, mais attrayant en même temps. Et dans notre langue, et comme dans les termes bibliques, le mot saisit non seulement la grandeur, mais aussi la bonté. Donc, la grandeur et la beauté. Une puissance incroyable associée à une admiration agréable de cette puissance, justement. Des montagnes peuvent peut-être la caractéristique naturelle par excellence du mot majestueux. Le psaume 76 au verset 4 déclare que tu es glorieux, Seigneur. Puis il ajoute plus majestueux que les montagnes. Aux côtés de l'illustre plaine de Sharon, dans l'ancien Israël, qui avait sa propre gloire. Hein? Isaïe 35:2 nous dit C'est une prophétie de l'épanouissement futur du peuple de Dieu et ça salue la majesté du Mont Carmel, la montagne qui est là. Hier, alors qu'Alex me conduisait de Montréal jusqu'ici, pour Gatineau. Bon, j'essaye. Donc, on était sur l'autoroute et on a vu les couleurs magnifiques de l'automne, notamment lorsqu'on est arrivé à des collines et qu'on a vu les couleurs de nos arbres. C'était difficile de ne pas dire combien majestueux. Non, c'était pas les montagnes rocheuses ici, c'était pas immense. Là, c'était des petites collines que l'on voyait à droite alors qu'on montait ici de Montréal. Mais c'était majestueux de contempler toutes ces couleurs qui s'étalaient devant nous. Alors, avec les montagnes et leur majesté, on pourrait aussi attribuer la majesté à l'or ou à un autre métal précieux ou une pierre précieuse qui serait digne d'un roi, qui éblouit les yeux par sa beauté. Dans le livre de Job, au chapitre 37 et au verset 22, ça associe la majesté impressionnante de Dieu à la splendeur dorée. Voilà, justement. Alors, ce ne sont pas seulement les phénomènes naturels comme les montagnes, l'or ou les bijoux, les pierres précieuses, mais aussi le travail des hommes qui, lorsque cela atteint une grande échelle, pourrait nous amener à dire majestueux. Lamentation, verset 1 et verset 6, pleure la perte d'une telle majesté civique, le genre de majesté qu'on veut voir dans une grande ville, capitale. Et ça, après la destruction de Jérusalem, par Babylone et peu de temps après, Nebuchadnezzar, roi de Babylone à l'époque, déclare avoir bâti sa ville par son pouvoir puissant comme résidence royale et pour la gloire de sa majesté à lui. Et ça, avant que Dieu ne l'humilie, c'est dans Daniel. Comment alors l'utilisation courante du mot majesté pour des montagnes, pour des manoirs, pour l'or ou des villes est en rapport avec le fait d'attribuer à Dieu la majesté, comme le fait le psaume 8, de façon si importante d'ailleurs. La majesté rapproche à la fois la grandeur et la bonté, à la fois la force et la beauté. La majesté n'est pas seulement un terme approprié pour la majesté des montagnes, mais une description particulièrement appropriée de Dieu qui, comme le dit Ésaïe 10:34, est le majestueux lui-même. À un moment critique de l'histoire d'Israël, le peuple de la première alliance de Dieu, alors ils s'étaient rassemblés sous la direction de David, l'auteur du psaume 8, et alors qu'ils se sont rassemblés là, on est dans 1 Chronique 29, ils ont rassemblé les matériaux pour le temple qui ne sera pas construit pendant la vie de David, mais par son fils Salomon. Alors, mais ils sont en train de dédier leur offrande pour le temple. Et le roi David prie ainsi dans 1 Chronique 25, verset 10 à 13. Béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel Dieu de notre ancêtre Israël. À toi, éternel, sois la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. À toi, éternel, sont le règne et l'autorité suprême. C'est de toi que viennent la richesse et l'honneur. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et tout fortifier. Maintenant, notre Dieu, nous te louons et te célébrons ton nom glorieux. Je veux mettre l'accent sur le verset 11, qui sont au début du verset 11. David dit, à toi l'Éternel, c'est la grandeur, sont la grandeur, à toi l'Éternel, la puissance, et à toi l'Éternel, est la gloire. C'est splendeur dans la version second 21, mais on va considérer gloire. Et on va considérer ces trois-là, alors qu'on aborde le psaume 8. Ce sont les trois angles qui nous permettent de bien comprendre cet attribut de majesté divine. Alors, le premier, c'est la grandeur de Dieu. Avant tout, la majesté communique la grandeur de Dieu. Le premier verset du psaume 104, que l'Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu de splendeur et de magnificence. De même, après cet exode dramatique d'Exode à la mer Rouge, là, l'un des mots-clés qu'ils utilisent dans leur louange de Dieu dans Exode 15, c'est « majesté ». Les gens chantent « Dans la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires ». Exode 15, 7. Plus tard, à Babylone, alors que Nebuchadnezzar raconte sa grande humiliation et sa restauration, après avoir célébré sa majesté, comme on l'a lu plus tôt, il parle de sa majesté et de sa grandeur qui lui est rendue. Il dit, encore plus de grandeur m'a été ajoutée. Il le dit de façon un peu plus humble cette fois-ci. On est toujours dans Daniel chapitre 4. Beaucoup d'entre vous connaissez la célèbre prophétie de Michée sur Bethléem. Michée 5-4, on lit Saint Noël. Là, il attribue la grandeur à la majesté de Dieu. Dans celui qui va venir, qui tiendra et pètera son troupeau dans la force du Seigneur, dont la majesté du nom du Seigneur son Dieu, ils habiteront en sécurité, car maintenant il sera grand jusqu'aux extrémités de la terre. Michée 5-4. La majesté dénote souvent une grandeur de taille, comme les montagnes ou les manoirs, comme on a vu. Ézéchiel, lui, parle de nations majestueuses, signifiant de grandes nations, qui étaient autrefois nombreuses et puissantes, mais qui sont maintenant humiliées par la main de Dieu, Ézéchiel 32. Mais cette grandeur peut également inclure le droit et la prérogative divine que Dieu a en tant que Dieu de gouverner, de faire ce qu'il veut. Comme le priait David, à toi, Seigneur, la grandeur, la puissance et la gloire, la victoire et la majesté, car tout ce qui est dans les cieux et la terre sont à toi. Ce n'est pas seulement lui parce qu'il est puissant, non seulement à cause de sa force, mais à titre de Dieu, tout lui appartient de droit. Dieu n'a pas seulement le pouvoir de régner, mais le droit de régner sur sa création. Donc, la grandeur est associée à sa majesté. Deuxièmement, la majesté est également liée à la puissance et à la force de Dieu. David dit, « À toi, Seigneur, la puissance. » Michée 5.4. Non seulement Michée 5.4 relie la majesté de Dieu à sa force divine dans son rôle de berger du peuple, mais également avec sa puissance. Et le psaume 68, verset 34 ou 35 dans la section 21 forge un lien encore plus fort. Proclamer la force de Dieu, sa majesté s'étend sur Israël et sa force éclate dans le ciel. Et dans le verset suivant, incroyable, dit David, est Dieu dans son sanctuaire. Il est majestueux non seulement dans le pouvoir qu'il possède, mais également que le pouvoir qu'il donne généreusement à son peuple. Au verset 35 ou 36 dans la seconde 21, c'est lui qui donne force et puissance à son peuple. Et dans le nombre 129, on dit, entendons la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel est puissante, sa voix est majestueuse. Alors, la majesté est donc liée, on l'a vu avec la force, la grandeur, comme on l'a vu au premier point, donc, la force et la puissance au deuxième point. Et troisièmement, comme le prie David, à toi, Seigneur, et la gloire. La gloire, donc la grandeur, la puissance et la gloire, elles sont les trois liens les plus profonds avec la gloire et la majesté de Dieu, ce qui nous amène justement au psaume 8, qui est un psaume au sujet de la gloire de Dieu. C'est la célébration caractéristique de l'Écriture au chef de la majesté de Dieu. Le psaume 8 chante manifestement la gloire de Dieu. La gloire de Dieu placée au-dessus des cieux, au verset 1. Et la gloire de l'homme qui lui est attribuée par Dieu comme celui qui l'a couronné d'honneur et d'honneur, au verset 5. Ou verset 6 dans nos versions. Et aussi la ligne d'ouverture qui est reprise à la fin. « Salue la majesté du nom de Dieu. Ton nom est magnifique sur toute la terre, éternel notre Seigneur. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Combien est glorieux ton nom aussi, on peut dire. » Alors ici, dans ce psaume, sous la bannière de la majesté, de l'excellence de Dieu, et on trouve deux niveaux, ou deux modalités, peut-on dire, de la majesté divine. On voit ici dans le psaume 8, là, examinons-le. Le premier, ce qu'on pourrait appeler un mode naturel de majesté, c'est la majesté que les yeux naturels peuvent contempler. Les cieux, versets 2 et 4, les lunes et les étoiles, verset 4. On pourrait supposer que des aspects naturels majestueux comme les montagnes, les mers, de grandes étendues qui nous rappellent notre petitesse et la grandeur et la puissance impressionnante de celui qui a créé ces choses si majestueuses. Donc, c'est le mode naturel de la majesté que tous les yeux peuvent contempler. Mais ensuite, le deuxième est ce qu'on pourrait appeler un mode spécial de la majesté. Et ça, c'est l'accent du psaume 8. Ça commence avec une majesté naturelle, mais au cœur du psaume, c'est la majesté spéciale. Une majesté inattendue, particulière. Le verset 3 dans le second 21 mentionne la bouche des bébés, des nourrissons qui témoignent de la force de Dieu. Je ne peux que penser à Exode 15, le peuple faible, comme les enfants et les nourrissons s'en viennent vers les Israélites qui ont dos à la mer Rouge. Alors, un peu comme les 600 et c'est de la bouche des enfants et des nourrissons que Dieu déclare sa force, la force de Dieu face à pour réduire au silence l'ennemi et l'homme avide de vengeance. Et même au cœur du psaume, verset 4 à 9 dans notre version, on s'émerveille de sa grâce envers l'humanité. Alors, c'est assez inattendu. Après le début, on pourrait s'apprendre qu'on célèbre la montagne, les ciels, et qu'on continue de parler des mers et des vastes étendues de la création que tous, croyants et incroyants, peuvent voir. Mais dans les versets 4 à 9, ça met l'accent sur la majesté spéciale, plutôt. Au vu de cette majesté naturelle comme les cieux et ce que Dieu appelle ton ciel, c'est toi qui les as faits, ils sont à toi, œuvre de tes mains. Alors, considérant cette majesté naturelle, comme les cieux faits par le Seigneur, et les lunes, les étoiles, les montagnes, les océans, le prophète se dit, qu'est-ce que l'homme, verset 5, que tu te souviennes de lui? On est tellement petit, insignifiant, semble-t-il, debout au bord du Grand Canyon, par exemple, ou debout devant une montagne majestueuse, qu'est-ce que l'homme? Mais pourtant, au verset 6, et ça c'est le pourtant de la grâce. La grâce de Dieu est reliée à la gloire de Dieu qui est majestueuse dans son 8 ici. Mais pourtant, Dieu a fait de l'homme un peu inférieur à Dieu et l'a couronné de gloire et d'honneur, qu'on ne méritait pas, n'est-ce pas? Bien sûr, la couronnée de gloire et d'honneur. Dans sa création majestueuse, Dieu a fait l'homme qui est bien petit et bien limité, mais il a fait son image. Et il a donné à l'homme la domination sur ce que ses mains ont fait. Les oiseaux des ciels, les poissons des mers, tout cela est assujetti à l'homme, finalement. Nous dit le Genèse chapitre 1, là, qui est repris dans le psaume 8. Alors, on peut voir ici dans le psaume 8, il y a à la fois une majesté naturelle et une majesté spéciale. Et dans le psaume 8, et tout en reconnaissant la majesté évidente de Dieu dans la grandeur et la beauté de la création, met quand même l'accent sur le côté inattendu de notre Dieu. de la majesté de sa gloire. Inattendu qui est encore une autre preuve de sa majesté. Et cela ne ravale pas sa majesté, ça l'élève au contraire. Elle est déjà majeure par-dessus les montagnes et les étoiles, mais cela remonte sa majesté. Il montre sa grandeur et sa puissance, non seulement par les cieux, la lune, les étoiles et la montagne, mais aussi par l'agence des hommes, et par la bouche des enfants et des nourrissons qui déclarent sa louange. Il se montre majestueux non seulement par les cieux, mais aussi à travers les humains, en particulier ceux dont on s'attendrait le moins que ce soit le cas, les plus humbles, les enfants, les nourrissons. Alors, le point du psaume 8 est le suivant. La grâce de Dieu envers l'homme est à la gloire de sa majesté. Le point n'est pas de savoir à quel point l'homme est grand, mais à quel point l'homme a été l'objet de la grâce de Dieu et à quel point Dieu est grand. C'est un peu de jus de mots en anglais, là. C'est notre Dieu, ô éternel, notre Seigneur, notre Dieu, à cause de sa grâce. Il est majestueux en grandeur, en puissance et en gloire et en grâce envers nous, à tel point qu'il est notre Seigneur. Nous sommes l'objet de sa grâce. Et dans ce fait de dignifier l'humanité de façon saisissante dans le psaume 8, s'il y a le moindre doute dans notre esprit, alors que l'homme est monté en épingle dans le psaume 8, mais si on se demande où l'accent tombe dans le psaume 8, alors il faut revenir à le dernier verset qui nous rappelle encore une fois le fait que c'est le nom de l'Éternel qui est magnifique. Grâce pour l'homme, gloire pour Dieu. L'accent principal qu'on trouve dans le dernier verset, c'est l'Éternel et sa grâce. Et même si dans le psaume 8, oui, nous voyons la grandeur, la puissance de l'Éternel, l'accent tombe sur sa gloire. C'est pas du tout un sens que David reprend ce mot majestueux ou magnifique dans le psaume 8, car c'est un psaume de louange. Le mot majesté est un mot de louange, car la majesté divine est si étroitement reliée à la gloire divine. On pourrait peut-être même considérer que le mot majesté est comme quelque chose qui fournit au peuple de Dieu un mot supplémentaire pour exprimer sa gloire, pour la louange. On veut exprimer, louer, s'émerveiller devant notre Dieu, sa gloire et sa beauté. Et donc, avec le mot « splendeur » qui est en anglais, le même mot en français qui est souvent associé à « majesté » dans les divers psaumes, le terme « majesté » lui-même donc élargit notre vocabulaire pour exprimer la gloire de Dieu. Notre Dieu est si grand, si admirable, si merveilleux, si redoutable aux yeux de son peuple et si redoutable aux yeux de ses ennemis que le mot hébreu « kavod » et le mot grec « doxa » qui sont traduits par « gloire » dans nos Bibles. Et ces mots-là ne suffisent même pas. Merci, Sergueï. Gloire, gloire. Eh bien, cela ne suffit pas pour le louer. Nous avons besoin de plus de mots pour que gloire, simplement, pour louer notre Dieu. Nous avons besoin de plus de mots. Et nous voulons utiliser plus de mots dans le service de la louange. Alors que nous cherchons à contempler de Dieu, de sa beauté, sa puissance, sa grandeur, sa gloire, nous cherchons à tâtons les mots qu'il faut, comme sa domination, son autorité, sa splendeur et sa majesté. Et parfois même, on empile les mots, comme le fait le psaume 145, verset 5, la splendeur glorieuse de ta majesté. Quel beau mot de louange. Alors, ce mot « majesté » est magnifique dans le psaume français, bon, étroitement lié. C'est un mot émotif ou affectif, si on veut. Ça indique une grandeur à la vue de la chose, mais également le côté émerveillement. sa grandeur et sa beauté, sa grandeur ou sa taille imposante, que l'on voit avec délectation, une puissance imposante qui est reçue comme étant séduisante, eh bien, cela a un chevauchement significatif avec des mots comme domination, Dieu ou seigneurie. Mais majesté en fait plus que seigneurie. Dominion et seigneurie sont un peu techniques ou prosaïques, si on veut. Alors que majesté a un écho plus poétique dans la crainte révérencieuse que l'on exprime. Et c'est peut-être cette son poétique de majesté qui rend si précieux à l'Église dans sa louange. Alors que John Kirk cherchait des mots pour exprimer les verbements qui montaient de son âme bien au-delà de l'héritage de la tradition anglaise dans ses beaux palais, là, c'est-à-dire une révérence pour le Dieu vivant. Alors, majesté lui est venue, non pas comme un terme technique, fonctionnel ou dénotatif, comme on dit, un mot universitaire, si on veut, érudit. Non, il y avait là un sentiment, ça communiquait une admiration qui remplissait l'âme à la grandeur, la puissance et la gloire de Dieu. C'était une mise en bouche d'adoration de Dieu. Adoration qui sortait de la bouche des enfants et des nourrissons, comme nous sommes devant Dieu. Alors le choix du mot « majesté » nous parle de l'orateur. Ça communique quelque chose au sujet de la personne qui a choisi ce mot. La majesté attribue non seulement la grandeur, la puissance et la gloire à Dieu, mais également la crainte révérencieuse et l'émerveillement de celui qui a choisi le mot. Les amis de Dieu ne sont pas ses ennemis qui déclarent sa majesté. À la mer Rouge, aux yeux des Égyptiens, alors que la nuée s'est retournée contre eux comme dans le feu de la colère divine et a apporté l'eau pour détruire les ennemis du peuple de Dieu, ils n'ont pas dit que Dieu était majestueux. Ils avaient un sentiment de terreur. Sa taille et sa force suivante n'étaient pas en leur faveur, mais contre eux. Mais aux yeux d'Israël à ce moment-là, aux yeux du peuple de Dieu, leur Dieu était en effet majestueux. C'est le mot qu'ils ont choisi dans Exode, chapitre 15, dans sa grandeur, dans sa puissance, et digne de louange pour avoir terrifié et anéanti les ennemis de Dieu. Il a sauvé son peuple dans sa majesté. Mais l'accent principal, comme on dit du psaume 8, c'est sa grâce. Sa grâce envers son peuple. Ce qui nous amène à ce que dit le prophète Isaïe dans Isaïe 53, dans ce passage énigmatique au sujet du serviteur souffrant qui devait venir. Il a dit qu'il n'avait aucune forme ni majesté pour que nous le regardions. Traduction libre. Du début jusqu'à la fin de la vie terrestre de Jésus, il a magnifié la majesté de son Père, pas le sien, pas lui. Et Jésus n'aurait pas eu de compte Instagram, il n'avait rien pour attirer le regard, pour que nous le regardions. Il a glorifié son Père, et donc il a parlé et agi, comme le rapporte Luc 9, 49, de sorte que tous étaient étonnés de la majesté de Dieu, se dit, en voyant agir Christ, ses actes. Et pourtant même alors, il y avait une majesté encore plus grande à venir. Et Luc poursuit en disant, alors que chacun s'émerveillait de ce que faisait Jésus, de tout ce que faisait Jésus, Jésus dit à ses disciples, et retenez bien ces paroles. Ne soyez pas distraits par la majesté naturelle. Écoutez ceci, la majesté spéciale. Elle a dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Autrement dit, il ajouterait une majesté spéciale à la majesté naturelle. Aux yeux naturels, il n'avait pas de beauté ni de majesté pour que nous le contemplions, mais il est devenu, maintenant aux yeux de la foi, celui qui est suprêmement majestueux. Après la résurrection, les yeux maintenant éveillés pleinement à la grâce, Pierre témoigne d'être un témoin oculaire de sa majesté. On voit, lit ça dans 2 Pierre chapitre 1. Et maintenant, celui qui s'est humilié jusqu'à la mort, même la mort sur la croix, a été super exalté. Et il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. En terminant, je ne peux pas m'empêcher d'ajouter un autre point au sujet du psaume 8 à cause d'une observation qu'on trouve dans Hébreux chapitre 2. Le psaume 8 nous dit « Dieu a tout mis sous ses pieds par les êtres humains. » Verset 7, « Il a tout mis sous ses pieds. » Mais dans Hébreux, le chapitre 2, verset 8 dit « Mais nous ne voyons pas encore que tout est sous ses pieds. » Alors, j'aime bien cette lecture serrée du verset 8. Du fait qu'il a fait l'homme à son image, il lui donne le droit de dominer sur le monde et place tout sous ses pieds. Mais nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis, dit le verset Hébreux 2, 8. Le droit y est, la puissance n'y est pas encore. On travaille comme espèce pour y arriver, mais Hébreux nous dit, nous le voyons, Jésus, couronné de gloire et d'honneur à cause de la souffrance de sa mort, pour qu'il goûte à la mort pour nous par la grâce de Dieu. Donc, même si la vision du psaume 8 n'est pas encore accomplie pour nous tous, toute sa notion étendue, elle est accomplie en Christ qui est couronné de gloire et d'honneur à la droite de la divinité dans les yeux. Le soleil est le pilier de notre voie pour la majesté qui un jour sera partagée, qui va nous attirer à cause de la majesté que Christ a réalisée à cet homme sur le trône du ciel de par sa souffrance et sa résurrection. Alors peut-être croyez-vous avoir besoin de nouveaux langages de temps en temps pour attribuer grandeur, puissance et gloire au Dieu que nous adorons en Christ. Il n'est pas seulement grand, il est également bon. Bon dans sa grandeur et grand dans sa bonté. Il n'est pas seulement grand comme fort, imposant, indomptable ou tout-puissant. Il est beau, attirant, renversant, irrésistible, glorieux. C'est lui, le majestueux, qui a délivré Israël à la mer Rouge, la mer des gens et son Église à la croix. Ainsi pouvons-nous dire avec le psalmiste dans le psaume 145 et verset 5, « Je méditerai sur la splendeur glorieuse de ta majesté et sur tes merveilles. » Et ainsi, nous adorons sa majesté. Prions. Père du ciel, donne-nous des yeux pour voir plus de majesté. Dans nos vies, et peut-être encore plus dans la vie urbaine, nos yeux sont tellement fermés à la majesté naturelle que tu as créée dans ton monde, dans les ciels, dans la mer, dans les montagnes, dans des feuilles d'automne. Ouvre nos yeux à ta majesté naturelle. Oui, mais Père, encore plus, ouvre nos yeux, les yeux du cœur, pour contempler la majesté de ta grâce que tu as eue à notre faveur en Christ. Celui qui était sans majesté, mais qui, à cause de sa mort, sa souffrance, sa mort, est devenu le majestueux suprême dans nos cœurs et pour toute l'éternité, il sera grand à nos yeux, et dans sa justice, dans sa puissance, dans sa gloire. Père, donne-nous des yeux pour cette majesté de Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous te prions. Amen.